Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on débriefe du match ou du non-match de nos Gunners face à Aston Villa. C'est parti.
Sur le pied gauche, frappe de Saka! Bukayo Saka qui attise le feu!
Odegaard, c'est contré! Et c'est fatal! En perte Clément! Martin Odegaard!
Alors, que dire de cette rencontre d'Arsenal face à Aston Villa? La donne était quand même plutôt simple, puisqu'on était la dernière équipe du top 3 à jouer, et que par conséquent, on connaissait donc les résultats de nos opposants directs dans cette course au titre, à savoir que Manchester City l'avait emporté 5-1 face à Luton à domicile, et que Liverpool, un peu plus tôt dans l'après-midi, s'était incliné 1-0 face à Crystal Palace. La donne était donc simple, comme je vous le disais. Une victoire ce soir à l'Emirates dans notre antre et nous récupérions la première place du classement avec un point d'avance sur Manchester City et on faisait un petit peu le trou sur Liverpool puisqu'on aurait compté, 3 points d'avance. Vous l'aurez compris, ça s'est pas forcément passé comme ça. Alors, on va commencer traditionnellement par la composition des équipes, avec dans les buts David Raya, une défense à 4 avec Ben White, Saliba, Gabriel et Zinchenko, un milieu de terrain avec Declan Rice, Captain Odegaard et le retour d'Havertz dans ce milieu, dans ce triangle. Et en attaque, on avait Trossard à gauche, Saka à droite et Gabriel Jesus dans l'axe. Alors, ce podcast va être un petit peu particulier, vous l'aurez compris, puisque l'ensemble de mes acolytes, à savoir Axel, Meshad ou encore Axel, ne sont pas disponibles. Donc, c'est une première pour moi, je m'y colle. Il y aura donc très peu de débats, puisque pour débattre, il faut être au moins deux. Mais ce que je vous propose sur ce podcast, c'est de vous donner mes impressions et puis de laisser ouvert à la discussion via vos commentaires sur les différentes plateformes de nous donner votre avis. Pour la compo que je viens de vous donner, c'est une compo qui est, selon moi, assez cohérente. Si on regarde le match que l'on a joué cette semaine en Ligue des Champions face au Bayern de Munich, dans la physionomie du match, et la première chose que l'on peut dire, c'est que finalement les remplaçants qui ont fait la différence sur le match de Ligue des Champions ont été récompensés. Je pense notamment au duo Trossard-Gabriel Jesus et bien entendu à Zinchenko qui avait remplacé Kivior dès la mi-temps du match. Ce que l'on peut dire, c'est que, alors, peu de surprises sur cette compo. On commence un petit peu à connaître le coach Arteta. Et moi, personnellement, lorsque j'ai vu cette compo, je me suis dit, le retour d'Havertz dans le milieu, on sait que ce n'est pas forcément son meilleur poste, en tout cas là où il a fait les meilleurs matchs. Je m'attendais déjà à débattre avec notamment Meshad et Richard sur cette opposition d'Havertz par le coach. puisque en tout cas on est d'accord que le on est tous d'accord tous les trois pour dire que la place d'Havertz dans notre 11 c'est en 9, s'il doit jouer c'est en 9, mais que en milieu de terrain il est clairement moins performant. Du coup, bien entendu, vous l'aurez compris que j'ai scruté le non seulement le match d'Havertz dans cette position-là, mais également le match de Gabriel Jesus en neuf, puisque on connaît tous ses qualités et je suis d'accord pour partager l'opinion de ceux qui disent que Gabriel Jesus peut être considéré comme un neuf titulaire de par ses qualités, en s'adaptant bien entendu à l'adversaire. Et que pour un match comme celui d'Aston Villa, c'était quelque chose qui pouvait se justifier de par ses capacités au-dessus de la normale dans les petits espaces, ce qui nous ramène d'ailleurs le but face à Munich. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Sinon, c'était quelque chose d'assez traditionnel de mettre Kivior ou de mettre Zinchenko à gauche. Bon, ben voilà, on a en parlant de Zinchenko, on aura remarqué qu'il est rentré beaucoup moins dans l'axe sur ce match-ci. Et puis l'autre focus que moi j'avais en regardant ce match, c'était la titularisation de Trossard qui récompense, je vous l'ai dit, une rentrée fort intéressante contre le Bayern. Mais le constat, il est quand même relativement général de dire que Trossard, lorsqu'il joue titulaire, il est beaucoup moins performant que lorsqu'il est utilisé comme un super sub, comme il a pu nous le démontrer depuis le début de la saison. Donc voilà, moi, finalement, les deux focus que j'ai fait sur ce match-là avant les premiers changements. Je dois vous dire également que moi j'ai loupé on va dire les 10-15 premières minutes puisque je n'étais pas rentré encore chez moi pour regarder le match, que je regardais ça dans la voiture et que c'est pas toujours évident, il est préférable de regarder la route. Mais j'ai pu suivre ça d'abord de loin et bien entendu par la suite une fois que j'étais posé devant mon écran de beaucoup plus près. Le résumé de cette première mi-temps, il est comme toute relativement simple. J'ai pas trouvé la première mi-temps mauvaise parce qu'on a des on a des occasions. Je crois, alors une fois, vous savez que je suis pas forcément très fan des statistiques, mais je crois qu'on tire 17 fois au but pour 3 tirs cadrés, quelque chose comme ça. Donc on avait cette faculté à se projeter et à essayer de créer des occasions, mais comme dans certains matchs que l'on a pu voir cette semaine-ci, cette année-ci, pardon, cette saison, c'est que déjà dominer n'est pas gagné, bien entendu, surtout en première mi-temps. Avoir la possession, ça ne veut pas dire avoir les occasions. Et puis, bah, il y a un moment donné, il faut être non seulement bon dans l'avant-dernière place, dans l'avant-dernière passe, pardon. Mais l'être encore plus dans la dernière place qui peut être décisive sur des occasions de but. Grosso modo, parce que je pense que ça ne mérite pas plus, sur la première mi-temps, il y a deux belles occasions qui ont été mises en échec par mon ennemi juré Martinez, que je n'aime pas. Voilà, je fais une petite confidence, je n'aime pas ce joueur, en plus je n'aime pas ce club-là. Mais je crois que comme tout Français, même si tu es un ancien du club, je l'aime vraiment pas. On a l'occasion d'Havertz et puis on a l'occasion d'ailleurs, Axel sur Insta nous faisait un petit rappel sur ce qu'il avait dit le précédent podcast, à savoir que Havertz pourrait être un Van Persie en puissance s'il mettait les occasions au fond. Voilà, il a une occasion, il ne la met pas. Je crois que l'occasion quand même la plus franche reste, c'est même pas un face-à-face parce que Trossard il est à 2 mètres du but et que ça doit faire ça, ben, clairement ça doit faire mouche. Alors après, bien entendu que Martinez sort l'arrêt qu'il faut pour garder les siens dans le jeu et leur permettre de rentrer à la mi-temps sur le score de 0-0, mais si, comme on le prétend, on joue la course au titre, Ça doit être beaucoup plus chirurgical en attaque. Donc vous l'aurez compris qu'on rentre à la mi-temps sur le score de 0 à 0. Petit focus sur non pas faire du cas par cas, mais vous donner mes impressions. J'ai trouvé que le garde avait été alors au-dessus du lot. Il n'a pas fait un premier mi-temps masterclass selon moi, mais il était vraiment au-dessus du lot. Parce que bien entendu, lorsque vous avez un meneur de jeu de ce calibre-là, qui techniquement est bien au-dessus de tout le monde, et que c'est un métronome, comment dirais-je, un golden métronome, si on veut. Il a proposé, il a demandé, il a orienté. C'était assez intéressant. Sur les côtés, à part l'occasion de Trossard, j'ai pas trouvé ça très très ouf. Saka, j'ai trouvé très moyen son match dans l'ensemble, puisque lui est resté jusqu'à la fin. Encore une fois, j'ai trouvé que notre défense avait été mise à mal, mais sur des choses qui sont très infimes. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un match, par exemple, l'occasion de Watkins, je dis occasion parce que il va au but et qu'il tire sur le poteau, mais encore une fois, avec beaucoup plus de rigueur, et Gabriel n'a pas ce qu'il fait dans le dos de Zinchenko. Alors on peut refaire le film du Bayern où Ryan ne doit pas sortir, Gabriel fait une mauvaise passe sur Kivior qui est raide comme un piqué, n'arrive pas à récupérer le ballon. Mais si pour moi le, comment dirais-je, sur l'occasion, bah, sur le but du Bayern, Raya est à 95%. Responsable, du moins à l'origine de toutes les fautes qui ont pu être commises, pardon, par la suite. La passe de Gabriel dans le dos de Zinchenko ne doit pas arriver. Alors on pourra toujours me dire, ouais, mais Zinchenko doit écarter, doit proposer différemment, etc. Mais Zinchenko à aucun moment peut s'imaginer que Gabriel va lui la donner. Donc voilà, donc du coup, sans être vraiment dangereux, après Villa reste une équipe qui est très bien en place, etc. Mais en première mi-temps, on leur donne quand même une première occasion qui est assez, bah, pour le coup, heureusement, sans conséquence, mais c'était peut-être les prémices d'une seconde mi-temps qu'on pourra qualifier de, selon moi, de catastrophique. Dernier point sur cette première mi-temps, le positionnement de Rezus. Je l'ai dit un petit peu avant, en préambule, que bien entendu, Rezus peut être considéré comme un neuf titulaire dès l'instant où on l'utilise pour ses qualités, et on les connaît toutes, sa technique, son jeu dans l'espace court, ses capacités de dribble, etc., etc., et sa capacité à conserver le ballon. Toutes ces qualités-là que je viens de vous énumérer, en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite toujours, bien entendu, et comme on le fait à chaque épisode, de commenter sur les différentes plateformes. Toutes ces qualités-là, si on ne les utilise pas, ou si Gabriel, si Rezus ne les utilise pas à bon escient, ça devient compliqué. Pour moi, Rezus est descendu beaucoup trop bas pour aller chercher des ballons, etc., et a donc manqué de présence au poste de numéro 9 quand on aurait pu l'attendre. J'ai en tête une ou deux occasions où il y a des centres, etc. Et puis à un moment donné, bah, forcément, quand tu viens récupérer ton ballon à 40 mètres des buts adverses, sur une attaque placée, une attaque rapide, il est difficile d'être également présent dans la surface pour reprendre les centres. Donc voilà, donc du coup, j'ai pas été. J'ai même pas envie de dire qu'il a fait un mauvais match parce que voilà, je suis tellement déçu du résultat, mais. Moi, j'appelle ça les occasions manquées. Il avait cette fois-ci été titularisé à son vrai poste et non pas sur le côté comme Arteta avait pu le faire par le passé. Et j'ai pas trouvé qu'il a fait un grand match. Voilà, donc vous l'aurez compris, on rentre à la mi-temps sur le score de 0-0. On peut s'attendre à un recadrage d'Arteta dans les vestiaires. La deuxième mi-temps commence. Avant de commencer, on voit, comme à leur habitude d'ailleurs, que les joueurs se, se regroupent en cercle. On voit les quelques leaders s'exprimer, notamment Zinchenko, qui, alors après, je ne connais pas les propos qu'il a tenus, pardon, mais en tout cas, il a pris la parole et Captain Odegaard a terminé. Et là, on se dit qu'il y a peut-être une prise de conscience que, alors, non seulement les résultats nous étaient très favorables avant ce match-là, mais que de toute façon, et ça, on vous le dit depuis un bout de temps, c'est que si on veut être champion, d'après moi, il fallait gagner tous les matchs. Parce que je pense que Liverpool va s'essouffler. Alors attention à ce qu'on ne fasse pas comme eux, parce que si on ne termine pas champion de Première Ligue, la deuxième place n'est toujours pas assurée. Même si la qualification en Ligue des Champions, bien entendu que pour moi, elle l'est déjà, même si mathématiquement ce n'est pas fait. Mais se rendre compte qu'il fallait mettre d'autres arguments dans cette deuxième mi-temps pour aller proposer quelque chose d'autre et puis aller chercher les 3 points, pardon, qui nous remettaient top of the league. Et donc j'attendais cette deuxième mi-temps avec impatience. Et pour ceux qui ont vu le match, eh ben, on a complètement déjoué. Encore une fois, sans faire du cas par cas, j'ai vu un petit peu sur les réseaux que on dit que Ødegaard s'est éteint. Alors moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'on l'a moins vu, c'est un fait. Mais on le voit moins parce que, encore une fois, un meneur de jeu de ce calibre-là, à un moment donné, il est mis en avant à partir du moment où vous avez la possession de la balle. Lorsque vous avez une équipe en face comme Aston Villa qui vous coupe les passes, qui cadre excellemment de façon très, bah, très minutieuse, très scolaire, très appliqué le terrain et qui vous coupe toute possibilité de passe ou de jeu en profondeur, ça devient compliqué de trouver de garde. Par contre, j'ai trouvé qu'il s'était donné physiquement pour essayer de se déplacer, etc. Après, ça n'a malheureusement pas suffi. On a quand même subi, on a loupé cette première mi-temps. De toute façon, soyons très clairs. Et on a une première alerte à la 62e minute de jeu avec cette frappe et double occasion de Tielemans. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la chercher sur les réseaux sociaux, puisque d'un tir excentré du pied droit de mémoire sur une perte de balle de Zinchenko. Tillman frappe au but et touche dans un premier temps la barre transversale, puis touche le poteau sans que Raya ne puisse s'opposer. Je parlerai même pas est-ce qu'il peut l'avoir ou pas, est-ce qu'il a le bon placement ou pas. Bon, voilà, clairement, vous l'aurez compris que Raya n'avait pas été décisif sur cette rencontre-là. Et donc, du coup, ça fait poteau barre. Donc, du coup, on peut se dire que attention, alerte, les gars, on se réveille. Eh ben, toujours pas. On a pris quelques cartons, notamment White et Havertz. Et à la 65 ou 70e minute, le coach décide de faire des changements. Je pense qu'il y a des choix tactiques, il y a des choix. Comment dirais-je? Imposés. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dominé comme ça, etc., avec une équipe d'Aston Villa, et je le répète, qui était très très bien en place et qui était cohérente dans ce qu'elle proposait et qui a su être dangereuse, le carton jaune pris par White un peu plus tôt pouvait devenir pénalisant, puisque quand vous n'avez pas le ballon, vous défendez en mettant de l'intensité, vous n'êtes pas à l'abri d'un deuxième carton jaune. Et déjà qu'à 11 contre 11, c'était compliqué, je suppose que à 10 contre 11, ça l'aurait été encore plus. Et voilà, je pense que c'est ce qui a motivé le changement, donc la sortie de Ben White et l'entrée de Tomiyasu sur le côté droit. Concernant le changement dans la même minute de Trossard par Martinelli, là, je pense que c'est vraiment un choix tactique, puisque comme je l'avais pressenti, ben le Trossard titulaire, ben, ce n'est pas le même Trossard de Super Sub. Donc du coup, Arteta décide de faire entrer du 109 en espérant que Martinelli, pardon, puisse dynamiter ce côté gauche et apporter un petit peu de percussion et de danger. Il y a un autre changement qui est fait un peu plus tard, à la 80e minute à peu près, je crois. Celui-ci m'a semblé un petit peu plus surprenant, mais à la rigueur, on se dit, bon, faut essayer des choses, on y va. C'est le double remplacement avec Ødegaard qui sort et Jesus qui sort. Ben, Ødegaard et Jesus qui sortent, pardon. Et l'entrée de Jorginho et de Smith-Rowe. Vous l'aurez compris que Jesus, Jorginho, ce n'est pas un changement poste par poste. Et que donc, du coup, à ce moment-là, c'est Jorginho qui récupère la place dans le milieu à 3 d'Arsenal, et Havertz qui récupère sa et Havertz qui récupère son poste de numéro 9. Donc du coup on se retrouve avec un milieu de terrain Rice, Smith Rowe et Jorginho, et avec une attaque à ce moment-là Martinelli, Havertz, Saka, ce qui ressemble un petit peu à, alors, mis à part peut-être la présence de Smith Rowe, à un des 11 titulaires que l'on avait ces derniers temps. Les changements n'apportent pas grand-chose, et à la 84 ou 85e minute, on prend le premier but. Alors, ce premier but pourrait être analysé, mais je vous avouerai franchement qu'aujourd'hui, et en plus de ça, sans mes potos du podcast, j'ai pas forcément envie de rentrer dans l'analyse très très profonde, mais peut-être ouvrir une question, c'est que sur le but, pour ceux qui l'ont vu encore une fois, c'est un centre qui vient du côté droit de la part de Lucas Digne, et qui passe devant tout le monde. Raya couvre son premier poteau, mais sans vraiment intervenir, etc. etc. Et la balle arrive deuxième poteau, et à ce moment-là, on a Bailey qui la reprend et qui, alors je vais pas dire qu'il pousse la balle parce qu'il faut quand même la mettre, mais qui frappe au but, et le retour de Raya est trop tardif, et ça fait 1-0 pour Villa à ce moment-là. Moi, la question que je me pose, c'est que quand vous regardez, on est complètement désorganisé, c'est-à-dire que sur le centre de Lugadigne, c'est Havertz qui défend, donc Havertz qui était quand même passé avant-centre 5 minutes plus tôt, qui défend sur le côté droit, en compagnie de Zinchenko qui est un peu plus axial, Tomiyasu est dans l'axe. Et forcément, bah, si Zinchenko se retrouve à droite, notre côté gauche, il est déserté. Et donc, du coup, Bailey se retrouve seul et pousse la balle, la balle au fond des filets, pardon, et ça fait donc 1-0. Donc, du coup, on se dit, bon, OK, 84e, il nous reste 6 minutes, plus les arrêts de jeu. Il y a eu pas mal de changements. Allez, on va dire, il nous reste minimum 10 minutes pour au moins égaliser. Et sur une contre-attaque suite à un ballon perdu par Jorginho, alors il cherche une balle en profondeur, elle est interceptée, pardon. Bien entendu que quand vous avez besoin de gagner, vous êtes beaucoup plus haut sur le terrain. C'est Tillmans qui récupère le ballon et qui lance en profondeur Watkins qui part de son camp, donc il n'y a pas hors-jeu. Pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas du tout hors-jeu. Et Smith Rowe, c'était le dernier défenseur à ce moment-là, donc il essaie de revenir. Il est au duel, mais il est au duel sans vraiment y être, c'est-à-dire qu'il ne met pas d'intensité. C'est une course à côté de l'attaquant. Et puis Raya qui sort pour essayer de, je suppose, fermer son angle. Mais d'un somptueux piqué, Watkins nous tue, nous assassine, ce qui fait 2-0 à la 86e. Là-dessus, on a Arteta qui dit, bon, OK, je vais faire plaisir à mon pote Nketiah. Donc, il sort Zinchenko pour mettre Nketiah. Bon, je vais prendre à peu près 10 secondes pour vous dire que l'entrée d'Nketiah, elle a été catastrophique. Voilà, il a loupé à peu près tout ce qu'il a fait. Tous ses contrôles ont été loupés. Ses prises de position pour se mettre en situation de frappe ont été loupées, les passes à 10 mètres étaient loupées, les passes à 5 mètres étaient loupées. Crois qu'il n'a même pas tenté de transversale parce que du coup, il a clairement pas le niveau. Donc voilà, on essaie de revenir, mais il y a une sorte de lâcher prise de la part de l'équipe qui était assez surprenante sur cette deuxième période. Et donc du coup, malgré 8 minutes, 8 ou 9 minutes d'arrêt de jeu, sans proposer quelque chose, on s'incline à la maison sur le score de 2-0 face à Aston Villa. Donc c'est une défaite qui fait mal pour nous les supporters, qui fait même très très mal au classement. Je ne vais pas vous dire que je suis pas quelqu'un de défaitiste. Je vais vous dire que le titre est perdu, je le pense, mais parce que je pense que City ils font partie des trois, allez, des deux trois, ouais, voire même la meilleure équipe au monde actuellement depuis quelques saisons. Et je pense qu'avec l'effectif qu'ils ont, ils vont savoir non seulement avec l'effectif qu'ils ont, mais avec la fin de championnat qu'ils ont. Et ça, on l'avait annoncé d'ailleurs que c'était eux qui avaient à partir du moment où ils avaient joué Arsenal à la maison. C'était eux qui avaient des trois le calendrier le plus simple. Mais bon, voilà, il reste des matchs. On va essayer, on va attendre et espérer des contre-performances des Citizens d'ici la fin de saison. Mais voilà, on se tire clairement une balle dans le pied. Voilà, il faudra certainement tirer des conclusions. Après, est-ce qu'on était capable de tout gagner? Je reprends un petit peu ce qui avait été dit sur d'autres podcasts, notamment ceux de nos amis les Artilleurs, qui disaient qu'ils pensaient que chacune des équipes ferait encore un faux pas. Moi, je vois vraiment mal City faire encore un faux pas, mais on se rend compte que il y a encore quelques enjeux dans ce championnat anglais dans cette première ligue. En plus de cette course au titre qui est potentiellement celle du maintien et la course à l'Europe, et que donc il faut espérer que les prochains adversaires de City auront des choses à jouer et proposeront des performances peut-être au-delà de leur performance habituelle pour aller essayer de gratter quelques points. En tout cas, concernant Arsenal, c'était déjà le cas avant, et je suppose, je pense que de mon côté, c'est encore plus vrai ce soir après cette cruelle défaite. L'erreur n'est plus permise. Donc voilà pour ce bref résumé de deux matchs. Voilà, je crois que ça sert à rien d'être plus agressif que ça dans les commentaires. Chacun se fera son avis sur notre capacité à assumer ce rôle-là. Est-ce que finalement c'était pas plus simple de jouer les premiers et de laisser, pardon, les autres revenir dans ce classement que de jouer dernier? Est-ce que ça a apporté une sorte de pression supplémentaire? Est-ce que ça a apporté une sorte de décontraction qui nous aura coûté très cher, en se disant ben voilà, Liverpool a fait un faux pas à l'Emirates depuis 2024, on est des tueurs, et ce soir on va gagner, on va récupérer 3 points sur Liverpool, et on va récupérer notre place de leader et top of the league avec un point d'avance sur City. On ne sait pas trop, on le saura probablement jamais. Maintenant c'est fait, le match, de toute façon on va pas le rejouer là. La prochaine échéance va se rapprocher très vite. Je vous le rappelle que dès mercredi, on est de retour en Ligue des Champions avec un déplacement à Munich qui s'annonce, en tout cas du moins sur le papier et dans nos têtes, très, très passionnant, très palpitant, puisque après le résultat du match aller 2-2, tout est encore ouvert. Et puis en analysant, pardon, ce match aller, et pour y revenir très rapidement, on se dit que voilà, on était. Alors même si Bayern aurait pu l'emporter comme nous aurions pu l'emporter, puisque eux touchent le poteau à 2-2 et que nous, on a cette occasion en fin de match avec Saka qui va chercher un penalty qu'il n'obtient pas pour une balle de 3-2. On leur offre quand même les deux buts. Donc voilà, donc il faudra mettre une autre intensité, il faudra se vider les têtes, oublier cette contre-performance, parce que une chose est sûre, c'est que si on est encore en course, si on était encore en course sur les, bon, on l'est toujours mathématiquement, sur les deux tableaux, je pense que la priorité doit être, et a toujours été le championnat, puisque ça fait quand même 20 ans qu'on attend ça. Mais voilà, je garde espoir et j'ai confiance pour qu'on sorte un gros match. Et puis après, si on doit s'incliner d'une façon ou d'une autre, ben, il ne nous restera plus que le championnat. Et puis on terminera cette saison comme il se doit. Et puis si on ne fait pas champion, on reviendra avec de nouvelles ambitions l'année prochaine. Mais l'heure du bilan n'est pas encore arrivée. Je crois que ce soir, à l'heure où je fais ce podcast-là, c'est-à-dire à peu près maintenant une demi-heure après la rencontre, c'est vraiment ce sentiment de même pas de tristesse, mais de déception qui nous emplit, nous, les supporters d'Arsenal, parce qu'on s'y attendait peut-être pas sur ce match-là. Je m'attendais à une contre-performance, je la voyais, je l'imaginais plus contre Tottenham ou contre Manchester, parce que c'est des équipes qui n'ont rien montré, ou contre Chelsea, qui n'ont pas montré grand-chose durant cette saison, mais on sait qu'on a toujours peut-être un peu plus du mal dessus. On a deux derbies de Londres avec Chelsea et Londres, avec Chelsea et Tottenham, pardon, et ce fameux derby du nord de Londres à l'extérieur, et puis on a ce déplacement à l'avant-dernière journée à Manchester, où on sait que Manchester ne nous réussit pas forcément toujours. Voilà pour ce débrief. J'espère que ce monologue n'aura pas été trop pénible à entendre. Je vous invite à venir commenter les différents points que j'aurais pu aborder sur nos différentes plateformes et sur votre plateforme préférée. Ça peut être Spotify, ça peut être YouTube, ça peut être les podcasts Apple, ça peut être Deezer et j'en passe. N'hésitez pas à continuer à nous donner de la force en nous suivant sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, que ce soit X, anciennement Twitter, Instagram, Facebook. Ça reste que du foot, n'oublions jamais, mais ce soir, le coucher va être pénible, en tout cas pour ceux qui prennent ça à cœur. Je vous donne rendez-vous mercredi soir à la fin de Bayern avec, j'espère, retrouver les potes Richard, Meshad et Axel pour, je l'espère, débriefer d'une qualification qui pourrait être, alors non pas historique, mais que l'on espère et que l'on attend depuis très longtemps. Et puis à l'heure où vous écouterez ce podcast, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt.